Deschamps.
Antonin Iacarini.
Et Mathias Turcotte.
Salut, c'est Denis Gravel.
Véronique Bergeron.
Et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1.
On vous accompagne tout l'été avec une programmation parlée en semaine et la meilleure musique de la business la fin de semaine.
Hey everybody, this is Billy Joe from Green Day.
Hello, I'm Kurt.
And we are Nirvana.
Hey, Quebec City. This is Dom Howard from Muse.
I'm in Linkin Park and I like to rock.
Good evening, Ozzy.
Hello there.
L'incontournable pour l'été. Restez informés et rockés. Nous sommes Boulevard 102.1.
Marceau, le matin.
Here I go.
100% parler tout l'été.
Je remercie le chum Nathan Meilleur qui a pris les rênes comme animateur de Marceau le matin les deux dernières semaines. Pour cette semaine, Jeff Fortin, Pascal CV et Alex Laramé. Yannick Marceau de retour la semaine prochaine avec moi-même et Max Larouche. Sinon, cette semaine, je vous rappelle que le Point de Max est animé par Pascal CV. Elle sera accompagnée de Mathias Turcotte. Mathias m'accompagne dans l'émission On en jase. Et le retour de Gravel affiche complet. Denis, Véro et Audrey seront là dès 14h pour vous informer et vous divertir. On a Luc Laliberté qui nous attend pour parler de ce conflit au Moyen-Orient. Ce sont-ils se réglant en 4-5 jours, ça? Comme la guerre en Ukraine.
Mais là, j'espère qu'on décroche un peu des discours de Trump.
Je l'espère. Ah, l'essence a baissé de 5 %.
Oui, parce que lui, il a annoncé qu'il était en négociation avec Téhéran. Téhéran a dit, ben non, c'est
non,
pas le cas.
C'est pas le cas. On n'est pas en négociation avec vous, les Américains, dans la négociation avec Oman. Donc, on va parler de tout ça avec Luc Laliberté. Mais avant, on fait le tour des manchettes de l'actualité parce que, Alex, entente entre WestJet et ses employés de bord.
Oui, exactement. C'est sorti ce matin, entente de principe entre WestJet et les agents de bord. C'est un conflit qui durait depuis dimanche. Donc, on a fait un conflit de travail qui a duré un petit peu plus de 24 heures. Mais finalement, on a mis un terme à tout ça aujourd'hui avec l'entente de principe qui devra toutefois être votée par les membres. Mais pour l'instant, au moins, ça va permettre aux vols de reprendre. Juste la journée d'hier, c'est environ 500 vols qui ont été annulés. Donc, ça devrait reprendre au courant de la journée, là, sinon au plus tard demain. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui ont des vacances cette semaine prévues avec WestJet. Également, c'est le retour des vacances de la construction. Pour toi, Jeff, hein? T'es pas un travailleur de la construction,
mais
tu reviens de vacances.
Mais
t'es pas tout seul. Environ 200 000 travailleurs là, qui vont retourner dans les chantiers un peu partout à travers le Québec. Évidemment, ça nous amène vers les bilans, autant sur la route que sur les plans d'eau. Et pour la SAAQ, bilan provisoire de 18 morts sur les routes du Québec durant ces deux dernières semaines. La région des Laurentides arrive première au niveau des décès avec 4 morts. C'est quand même un bilan plus... un petit peu plus positif que celui de l'an dernier. Il y avait 38 personnes qui étaient mortes sur les routes du Québec cette année 18. Donc, c'est mieux, mais quand même, un décès, c'est déjà un de trop. Et pour ce qui est des noyades, ben, c'est 9 personnes qui sont mortes noyées à travers le Québec. C'est le même nombre que l'an dernier. Encore une fois, souvent, ça arrive dans les courants, hein, notamment dans les rivières. Les gens, souvent... surestiment leur capacité à nager et sous-estiment la force des courants. Et gros dossier sur les cyclistes dans le soleil ce matin, ou plutôt sur les pistes cyclables, ou les pires endroits où rouler dans la région de Québec. Et c'est le boulevard Louis XIV qui arrive premier du classement. Malheureusement pour eux, on parle qu'il n'y a tout simplement pas de pistes cyclables à cet endroit-là.
Ah non, vraiment pas. Ça ne me surprend pas. J'habite tout près. Puis,
c'est difficile.
C'est un endroit où les gens roulent quand même assez rapidement. C'est un boulevard à 50, mais les lumières sont très éloignées. Fait que quand on parle de vitesse, hein, les gens se donnent une go à 70-80 très, 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 très régulièrement.
Oui, cohabitation très difficile en ce coin-là. Numéro 2, la route de l'aéroport aussi, c'est très difficile de ce côté-là. Chemin Saint-Louis en numéro 3 et en numéro 4. 3e avenue, numéro 5, boulevard Nelson et boulevard Hochelaga.
Avez-vous senti le tremblement de terre hier? Moi, je l'ai senti dans le coin de Beauport. Ma blonde, je sortais de la douche. Je pensais que c'était le tonnerre. Quand je suis arrivé dans la cuisine, ma blonde m'a dit « Hey, d'après moi, on a eu un tremblement de terre. » J'ai entendu les verres claquer ensemble. Et comme des fêtes, ça a été un tremblement de terre qu'on a vécu hier soir à Québec.
Ben avec l'averse qu'on a eue, là, l'orage, moi, j'étais sûr que c'était...
Oui, ça se mélangeait à tout ça.
Ben oui. Mais il y a des gens qui ont senti ça, puis ils ont presque eu peur. Là. On parle de Charlebourg et de Beauport comme étant les pires secteurs.
Je suis parti 3 semaines en vacances. Et s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, Pascal CV, c'est Donald Trump qui continue à faire la manchette, à nous dire à peu près aux 48 heures que le conflit avec l'Iran, ça va être fini. Quand c'est pas fini, c'est je vais frapper l'Iran très, 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 très fort. Je vais les anéantir. Donc, bref, depuis le 28 février, qu'il nous raconte la même salade. Et pour en savoir plus, parce que l'Iran, présentement, négocie avec le pays d'Oman pour le détroit d'Ormuz. On va parler avec Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Luc, comment vas-tu?
Je vais particulièrement bien. Fin des vacances familiales et retour exclusivement à la politique américaine. Donc, et les élections approchent. C'est en novembre qu'on vote.
Excellent. Et Luc, je suis de retour de vacances. Des fois, quand on est de retour des vacances et qu'on a décroché comme j'ai décroché, on a un petit peu la tête encore dans les nuages. Donc, les gens ont entendu que tu avais un chalet. Alors, oui, Luc La Liberté a un chalet. Il a passé ses vacances-là. Il en a été très heureux.
Donc, on est un peu privilégié, très chanceux d'avoir ce petit refuge. Et effectivement, c'est là qu'on passe nos vacances essentiellement.
En fait, Luc, je te lance avec cette question-là. Est-ce que les Américains sont en train complètement d'échapper le ballon pour le détroit d'Ormuz? Parce que l'Iran dit être proche d'un accord sur Ormuz avec le sultanat d'Oman. Donc, peux-tu nous expliquer ceci?
Ben écoute, c'est d'abord, première chose importante à noter, puis dans ton introduction, avant de nous lancer, tu as un peu souligné cet aspect-là. Ce que ça laisse comme impression, et je crois que c'est le cas dans les faits, c'est que Donald Trump a perdu le contrôle de ce conflit-là, ou à tout le moins, il ne peut pas imposer ni son narratif, ni ses actions. On l'a souligné à plusieurs reprises, les Américains sont nettement plus forts, personne n'en doute, que l'Iran. La question n'est pas là. On a un potentiel militaire, on a de l'armement, on a tout multiplié par 10 et plus face à l'Iran. L'Iran est un pays qui est acculé au mur. C'est un pays qui, malheureusement, souffre, mais qui utilise cette souffrance-là ou qui est prêt à souffrir dans ses négociations. Et pour que les Américains puissent parvenir à leur fin, il leur faudrait dépenser encore beaucoup plus d'argent, mais surtout s'investir beaucoup plus en missiles, en munitions et en personnel sur le terrain. Les fameuses « boots on the ground » auxquelles on réfère très, très souvent. Est-ce que le président, au sens large, peu importe qu'il y ait des élections ou pas, est prêt à faire ça parce que ça ressemble déjà à un bourbier? Et est-il prêt à faire ça alors que les républicains aujourd'hui, des sénateurs républicains disaient aux médias « Le président, pour nous, est un boulet présentement pour les élections de mi-mandat. » Et parmi les sujets qui constituent un frein, il y a des républicains inquiets dans des circonscriptions où normalement on ne devrait pas l'être. Et ils disent parmi les sujets qui constituent les irritants majeurs, il y a bien sûr le conflit iranien et les retombées du conflit iranien sur notre économie. Mm-hmm. Donc, très clairement, ce que fait l'Iran actuellement, en termes de sport, ils jouent l'horloge, hein, où on joue le sablier, on laisse passer le temps, et dans ce cas, à moyen terme, le temps est l'allié des Iraniens et on exploite à fond le contrôle du détroit d'Ormuz. S'il y a une retombée particulièrement importante de ce que les Américains font depuis février, rappelle-toi qu'on est entré surtout, ce n'était pas que pour ça dans les explications, les justificatives du président, mais on est entré dans ce conflit pour le nucléaire. Et on en parle moins du nucléaire. Rappelle-toi, nous en discutons les deux, les généraux américains avaient dit à Donald Trump, si vous entrez là, une des premières réactions de l'Iran va être de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, ce n'était pas de l'inconnu, ce n'est pas une improvisation iranienne. On se doutait que c'est ça qui allait se passer. Et là, ce qu'on est en train de faire avec le sultanat d'Oman, c'est de normaliser une situation où ce sont les Iraniens qui contrôlent la navigation et qui pourraient percevoir éventuellement des sommes pour laisser circuler ou passer des navires. Et dans ce cas-ci, nous allons nettement au-delà des intérêts américains. Nous le savons. Si, comme moi, on roule électrique à la maison, mais on a aussi un véhicule à essence qui est assez lourd et qui consomme énormément, ne serait-ce que ça, que pour ça, vous le savez qu'on paie aussi le prix de ce conflit-là. Donc, c'est là où on en est ce matin. L'Iran qui tente de normaliser donc, le contrôle du détroit d'Ormuz Et ceux qui ont suivi ça un peu en fin de semaine, puis je te laisse relancer par la suite.
Ben oui.
Ceux qui ont suivi ça en fin de semaine, c'est le nombre de pays qui commencent à s'exprimer haut et fort. L'Arabie Saoudite, par exemple, le Pakistan est intervenu, le Koweït, le Qatar, puis on parle aux deux parties où on exerce des pressions, mais dans le cas de l'Arabie Saoudite, c'est aux Américains qu'on envoie un message qui est très fort. Ce conflit-là a assez duré et parfois c'est nous, dans la région, qui en payons le prix.
Luc, tu es un historien aussi, tu as été enseignant d'histoire politique américaine au cégep Garneau et tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est une situation tellement explosive parce que si l'Iran réussit à percevoir de l'argent par rapport au détroit d'Hormuz, ben après ça, cet argent-là va être redirigé vers le Hezbollah, vers les Houthis, vers le Hamas, donc le Moyen-Orient risque d'être en guerre très profonde.
Et ce qu'on fait ressortir et qui est paradoxal, et là on pense à des pays qui devraient, parce qu'il y a une partie du commerce international, dont du transport pétrolier qui passe par là, c'est que des pays qui sont contre l'Iran, qui auraient normalement plus d'atomes crochus avec les États-Unis, avant même de penser à ce qu'on pourrait financer ailleurs comme proxies ou comme alliés de l'Iran, c'est qu'on aurait l'impression de contribuer à la reconstruction de l'Iran en payant ces fameux tarifs. Et c'est là où ça vient, mais on le savait, intervenir dans la région, puis intervenir sans plan de sortie, intervenir malgré les réserves des généraux et des stratèges militaires, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose d'autre qu'une erreur de l'administration Trump.
Comment on peut sortir de ce conflit-là dans les prochaines semaines?
Ça m'apparaît dans les prochaines semaines, un, d'abord particulièrement optimiste, et deux, ça voudrait dire pour les Républicains, ça voudrait dire pour le président Trump de céder, de perdre la face, ce qui est déjà un peu le cas. Tu disais tout à l'heure, hein, je suis parti en vacances pendant un certain temps, je reviens, mais j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. C'est le même scénario qu'on répète continuellement.
C'est le même narratif.
Voilà. Et ça signifie que déjà sur la scène internationale et aux États-Unis, la crédibilité du président américain, la fiabilité du président américain ou des États-Unis comme alliés en prend pour son rhume. Ce ne sont pas des choses qui sont impossibles à corriger, mais au moment où on se parle, disons que, en très mauvais français, ça ne regarde pas bien. Donc, c'est là où on se trouve aujourd'hui. Donc, ça voudrait dire, si ça devait se régler à court terme, que les Américains sont prêts à céder beaucoup. Si je suis, on se remet sur le terrain des vaches, si je suis un stratège républicain puis qu'on vote au mois de novembre, est-ce que je suis capable de vivre avec un échec comme celui-là alors que j'ai déjà des courses plus serrées que prévues dans des États ou des circonscriptions où on devrait l'emporter facilement?
Il y a une faiblesse quand même importante aussi qui est exploitée dans certains médias ce matin pour Donald Trump en disant il s'est laissé berner ou encore il s'est laissé manipuler par Israël selon les propres insécurités et inquiétudes d'Israël.
Oui.
Est-ce que pas un président devrait être capable de gérer en conséquence de ses inquiétudes du pays et non d'un autre pays en étant capable d'évaluer tout ce qui pourrait être comporté dans ce conflit-là?
La question est intéressante, Pascal, puis si on recule ne serait-ce qu'un peu, reprenons les derniers présidents américains, là, on peut revenir dans le temps, on peut parler de Joe Biden, on peut parler d'Obama, on peut parler de W. Bush. Ces présidents-là avaient tous été approchés par Benjamin Netanyahu pour essentiellement faire ce que Donald Trump a accepté de faire. Et j'ai pris la peine de souligner, il y a des démocrates et des républicains, puis il y avait des différences entre Biden et Obama. Et personne ne jugeait bon ou sécuritaire ou avantageux de s'engager aux côtés de Netanyahou et d'Israël pour frapper de la sorte. Donc, Donald Trump découvre à la dure pourquoi travailler et jouer, entre guillemets, là, en termes de stratégie avec Netanyahou, c'est toujours un jeu américain. Netanyahou fait, bien sûr, le jeu d'Israël et le jeu de sa propre politique intérieure. Et on le sent plus nerveux, Netanyahou, ces jours-ci, parce que lui aussi est en élection cette année. Et il ne peut pas se permettre, parce qu'on gouverne avec des coalitions en Israël, il faut souvent s'allier à d'autres formations politiques. Et quand il regarde sur sa droite ou sur son extrême droite, Benjamin Netanyahou, il n'y a aucune tolérance pour ce qui serait considéré comme une concession ou une faiblesse. Donc, Donald Trump découvre ça aussi. Il y a des limites à ce qu'il peut imposer ou à la confiance qu'il peut avoir dans ce que lui fournit comme information Benjamin Netanyahu.
Luc, est-ce que le fait d'avoir des conflits comme ça et surtout le fait que le mouvement MAGA s'effrite nous amène à avoir d'autres mouvements plus extrêmes également, pondent à l'horizon? Et là, je veux te parler de cette gouverneure socialiste qui pourrait être élue au Wisconsin, Francesca Young, qui est en avance à l'heure actuelle. Elle est justement de nationalité américaine. Ses parents sont originaires de la Corée du Sud. Mais là, Mme Young, elle préconise l'abolition des frontières, des prisons et de la police. À un moment donné, un extrême est peut-être pas mieux qu'un autre.
Deux ou trois choses là-dessus, mais c'est intéressant que tu dises. Il y a souvent un retour d'ascenseur. Hein? Quand on appuie trop d'un côté ou qu'on va trop loin d'un côté, le balancier, c'est rare qu'il revient au milieu. Souvent, le balancier va vers un autre extrême. Plusieurs choses sur Mme Hong, donc, qui est une véritable... Elle est membre des Socialist Democrats of America. Donc, ce sont des démocrates, mais des démocrates qui s'affichent ouvertement comme socialistes. Ils ont le vent dans les voiles au moment où on se parle. C'est un vieux parti, hein, ou c'est un vieux mouvement, là, les Socialist Democrats. Ça remonte à 1982. Mais je ne me souviens pas qu'ils aient été aussi populaires que maintenant. Donc, il y en a au Congrès américain. Peut-être que les gens qui sont à l'écoute ce matin ont entendu parler d'Alexandria Ocasio-Cortez. Elle est membre des Socialist Democrats of America. Donc, ils ont le vent dans les voiles. Ils ont remporté plusieurs primaires pour les élections qui viennent au mois de novembre. Et les stratèges démocrates sont inquiets de ça. Ils ne parviennent pas à bien mesurer les chances de candidats ouvertement affichés socialistes quand va venir le temps d'une élection où on va être confronté aux républicains. Parce que être socialiste chez les démocrates, dans des États acquis aux démocrates, ça, c'est... on s'inquiète moins. Il y a une mobilisation, on fait bouger les électeurs. À la limite, il y a du positif. Ce qui les inquiète, c'est le Wisconsin et le Michigan. Parce que cette candidate-là, ce que tu as énuméré comme idée, ce n'est pas dans son programme. C'est dans celui des Socialist Democrats, des socialistes. Mais elle ne l'a pas mis sur sa plateforme. Si on va voir sa plateforme en ligne, ça ressemble grosso modo à ce que les démocrates proposent quand ils sont un peu plus progressistes. Mais ce n'est pas aussi choquant que ce que tu as énuméré. Entre autres, les socialistes démocrates, et ça, on le lui a ramené à Mme Hong dans sa campagne, elle voulait, puis elle avait déjà demandé dans d'anciens posts ou dans anciennes entrées sur les réseaux sociaux, le fameux « defund the police », c'est couper les fonds à la police et même abolir la police. Donc, dans une campagne chez les démocrates, à la limite, on peut passer par-dessus et lui suggérer ça, parce qu'elle est très près des préoccupations quotidiennes des électeurs. Donc, elle a également un volet plus pragmatique. Mais la question qui inquiète les stratèges démocrates, c'est quand va venir le temps d'affronter un républicain? Est-ce qu'elle peut nous faire gagner? On a une course au Michigan, ça va se décider demain soir qui va représenter les démocrates. Il y a aussi un socialiste confronté à une modérée, Al Sayed, qui affronte Mme Stevens, que les élites du parti aimeraient avoir parce qu'elle est plus modérée. Si on devait l'emporter au Wisconsin et au Michigan, ça, ce sont deux États baromètres, ce qu'on appelle les États pivots. Ils peuvent aller du côté démocrate ou républicain. On l'a vu avec Trump, Hillary Clinton ou Kamala Harris. Ça a voté démocrate et républicain, là, c'est très, très serré.
Puis là, permets-moi de croire que les Américains, lorsqu'on va arriver au vote présidentiel, il y a peu de chances qu'ils votent pour une personne socialiste comme ça avec ces idées-là.
Voilà, puis il y a une différence aussi. C'est certain que les républicains ont toujours présenté les démocrates comme des socialistes. Puis le nouveau mot cette année dans la bouche de Donald Trump, c'est les communistes. Il n'y en a pas de communistes là, ouvertement affichés parmi les candidats. Mais si on veut frapper l'imaginaire, rappeler de mauvais souvenirs, des souvenirs négatifs d'histoire américaine, on va prendre l'étiquette communiste. Alors, si on a Mme Hong ou M. Al Sayed, par exemple, qui l'emporte, c'est certain qu'on va jouer sur cette menace-là, menace entre guillemets, là, qui pèserait sur les Américains. Mais pour les démocrates, je répète, c'est comment on peut mesurer finalement, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est très localisé, cet appui très fort à des candidats ouvertement socialistes, est-ce qu'on peut gagner au-delà des territoires déjà conquis? Et on va en apprendre beaucoup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines là-dessus. Mais si j'étais un stratège démocrate, sincèrement, je serais inquiet parce que l'idée, c'est de vouloir gagner, c'est de vouloir devancer les républicains. Et aussi à gauche, habituellement, c'est peu payant aux États-Unis dans une campagne nationale.
Luc, La Liberté, c'est toujours un bonheur de te parler. Tu es spécialiste en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en classe sur les médias sociaux. On se garde pas loin pour sûrement s'en faire une petite jasette cette semaine.
Un grand merci, une bonne journée à tout le monde, aux auditeurs. Bonne semaine, bye!
Salut Luc, Luc La Liberté, toujours un bonheur de lui parler. C'est le spécialiste en politique américaine. Il a enseigné l'histoire durant plus de 30 ans. C'est le fun quand il nous fait des liens comme ça, Pascal, avec justement le mouvement socialiste depuis 1982 là, qui prend de l'ampleur. J'adore justement parler avec Luc La Liberté. Il connaît la politique américaine sur le bout de ses doigts. C'est vraiment intéressant.
Marceau, le matin.